Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Ça parle sport, un podcast de Décathlon Belgique où on a décidé, vous l'aurez compris, de parler de sport. Dans chaque épisode, nous accueillons des sportifs et des experts qui viennent nous parler de leur passion, de leur métier ou d'une thématique liée au sport. À travers ces épisodes, on espère vraiment vous inspirer, vous motiver et pourquoi pas vous donner envie d'essayer de nouveaux sports. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et de nous laisser un pouce vers le haut ou un commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. Alors moi je m'appelle Victoria, je travaille pour Decathlon et je vous accompagne aujourd'hui pour vous emmener en voyage. On se retrouve aujourd'hui dans un cadre un peu spécial. Nous avons quitté les murs insonorisés de notre studio pour nous aventurer dans les Ardennes belges, le temps d'un week-end, et nous avons invité nos ambassadeurs à passer ce moment privilégié avec nous. Vous l'aurez sûrement déjà croisé sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram. Son compte est une véritable mine d'or qui vous guidera dans tous les endroits qu'il faut absolument voir ou visiter en Belgique et même ailleurs. J'accueille aujourd'hui Justin Petit. Justin, bonjour.
Hello Victoria, ça va ?
Très très bien, et toi ?
Oui, super, merci.
Je suis ravie de t'accueillir dans notre petit bivouac. On va passer cette soirée ensemble et c'est l'occasion de faire un petit peu plus connaissance avec toi.
C'est parti.
Alors Justin, commençons par le commencement. Qui es-tu ?
Qui suis-je ? Eh bien, je m'appelle Justin, Justin Petit sur les réseaux, donc je n'ai pas été très original, c'est mon nom, enfin mon prénom et mon nom. Et qui suis-je sur les réseaux en tout cas, parce que bon, je garde quand même une part de privé aussi. Je vais pas dévoiler toute ma vie, mais sur les réseaux en tout cas de ce que je montre, c'est ma partie hyper aventure, hyper voilà, toujours vouloir découvrir des nouvelles choses, explorer des nouveaux endroits et partager ça avec les gens pour inspirer les gens à sortir de chez eux, à faire des chouettes trucs, à découvrir des lieux. Voilà, que ce soit en Belgique ou que ce soit ailleurs. C'est vrai qu'avec le confinement, ça a été beaucoup en Belgique. Mais de base, j'aime beaucoup voyager, même au-delà de nos frontières.
Oui, donc on l'a bien compris, tu es un grand fan de voyage. Et comment t'es venue l'idée de parler de tes escapades sur Instagram ?
Je dois dire, c'est en fait des amis à moi qui m'ont dit... J'ai toujours bien aimé faire de la photo. Mais à l'époque, c'était les photos qu'on postait sur Facebook et tout le monde avait Facebook. Et c'est mes potes qui m'ont dit, bah, Justin, vraiment, tes photos, elles sont chouettes, faudrait que tu les postes sur Instagram. Mais à l'époque, je ne savais pas c'était quoi Instagram. Moi, j'avais Facebook et ça me suffisait comme ça. Et ils m'ont dit, Justin, non, vas-y, essaye d'aller sur Instagram. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel et les gens vont aimer. Et puis, ça va attirer vraiment des gens que tu ne connais pas aussi et tout ça. Et moi, du coup, je me suis lancé sur Instagram. C'est vrai qu'en partageant les photos, mes photos de voyage, du coup, déjà à l'époque, ça a vite attiré pas mal. Voilà, les gens étaient assez intéressés, ils trouvaient les photos chouettes, il y a eu pas mal d'interactions. Et c'est un peu comme ça que tout a commencé. Je parle de ça il y a 6-7 ans déjà, quand même,
ah oui,
que je me suis lancé sur Instagram. Ouais.
Ah, génial, top. Merci pour ce partage.
Voilà.
Donc, justement, sur ton compte, on le voit, on le sait, tu as l'habitude de dormir dans des endroits un petit peu insolites, mais tu aimes aussi camper.
Bien sûr. Et ça, je pense que, enfin, je sais pas si c'est intéressant de le dire ou pas, mais ça vient du fait que j'ai un parcours scout. J'ai fait les scouts avant. J'ai même été chef pendant 5-6 ans. Et donc, du coup, ben voilà, quand on va chez les scouts, on campe. Et j'ai découvert vraiment la vie en extérieur, la vie en communauté, etc. là-bas. Bon, voilà, là, c'est les aléas du direct.
C'est ça.
Pour expliquer un peu aux auditeurs, il est minuit passé et on est dans une super tente Décathlon. Elle n'est pas insonorisée, comme vous l'avez pu entendre, mais elle est super sympa et c'est super cosy. Mais voilà, on est là tous ensemble. Et donc, je disais, oui, par rapport au scoutisme, c'est ça aussi qui m'a fait découvrir la vie au grand air. Après, j'ai toujours été quelqu'un d'assez simple et je me contente de très peu. Et donc, du coup... Ben voilà, pour moi, parfois, partir voyager, il ne faut pas que ce soit dans un bel hôtel ou quoi que ce soit spécialement. Parfois, juste une tente, des bons amis, quelques bières, un saucisson et c'est parti, quoi.
Et tu as bien raison.
Voilà.
Et justement, cette expérience de scoutisme, est-ce que c'est ta meilleure expérience camping ou tu as pu voir d'autres choses qui t'ont donné vraiment l'envie de faire plus de camping ?
Le scoutisme, après, ça reste du camping très traditionnel. Enfin, traditionnel. Bon, il y a quand même les pilotis et tout ça, mais je dirais que mon expérience un peu plus farfelue, un peu plus insolite au niveau camping, c'était quand je suis parti avec des amis en Bulgarie. On est parti faire un tour de la Bulgarie à pied, en autostop, etc. Et un soir, on n'avait pas spécialement de plan pour dormir. On n'avait même pas vraiment de tente, et donc je sais même pas si on peut appeler ça du camping, mais on a vraiment dormi sur la plage avec notre sac de couchage à la belle étoile. Heureusement il faisait beau et on en a profité pour faire un petit bain de minuit, donc ça reste quand même une chouette expérience.
Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Ça donne envie en tout cas. Et du coup, quel type de campeur tu es en règle générale? Est-ce que tu es plutôt le minimaliste ou le super équipé, ou même celui qui est très organisé, ou encore le mince, j'ai encore oublié quelque chose?
Non, surtout pas le dernier, ça mes amis pourront le confirmer. Vraiment, je pense que je suis quelqu'un de très organisé. J'aime faire des listes tout le temps. Je fais tout le temps des listes de ce que je dois prendre avec moi, de ce qu'il faut absolument pas que j'oublie. Et aussi, petite anecdote, généralement, quand je pars en vacances ou quand je pars en voyage, je fais ma valise plus ou moins une semaine à l'avance. Comme ça, pendant la semaine, quand il y a des choses qui me viennent en tête, où je me dis, ah tiens, ça, il faut surtout pas que je l'oublie, au fur et à mesure, je les mets dans ma valise pour ne pas les oublier. Et comme ça, a priori, le jour du départ, ma valise est tip-top. Impeccable. Donc certainement, je ne suis pas quelqu'un de désorganisé. Je pense que je suis même un peu trop organisé. Mais par contre, en camping, je ne suis pas le super équipé. J'aime partir vraiment avec très peu. Que ce soit dormir à la belle étoile, c'est possible. C'est pas un souci. Donc une simple tente, peut-être juste un petit matelas autogonflant pour ne pas dormir à même le sol, un bon sac de couchage, et le tour est joué. Je pense qu'il ne faut pas prendre trop d'affaires. C'est plutôt minimaliste, du coup, je dirais.
Donc pas de pression, mais un petit peu quand même.
Au niveau de la valise, ouais, quand même. Ouais, tout à fait.
Je connais ça très très bien.
Ah ben voilà.
Et du coup, de quoi tu ne peux absolument pas te passer quand tu pars camper?
Alors, ouais, donc ça c'est... Donc j'ai dit que j'étais très minimaliste au niveau de l'équipement que j'emmène avec moi, vraiment purement au niveau camping et logement. Par contre, là où je suis assez picky, c'est qu'il faut toujours que je prenne un contenant pour manger. Donc c'est-à-dire que ça, je pense, ça vient aussi des scouts avec la gamelle, les couverts, etc. Mais je me dis qu'à tout moment, t'as besoin de cuisiner, t'as besoin de te préparer un petit plat, et je suis quelqu'un d'assez gourmand. Donc si j'ai pas de quoi vraiment manger ou de quoi préparer à manger, c'est un peu compliqué. Donc je prends toujours ma vieille gamelle qui est gravée Chipmunk, qui est mon totem. et donc voilà, elle vient avec moi aussi en camping.
C'est un peu un porte-bonheur, peut-être?
On peut voir ça comme ça, oui.
On passe à un sujet un petit peu différent, en restant dans le camping quand même, mais on a remarqué sur ton compte que tu es quelqu'un aussi de très engagé pour l'environnement. Tu participes par exemple à des grands ramassages de déchets. Selon toi, voyager proprement, camper proprement, c'est possible?
Bien sûr. Ça engage uniquement les voyageurs, les campeurs, de se dire que leur voyage sera un peu plus engagé, un peu plus clean, un peu plus éco. Je pense déjà à un gros principe, et moi c'est un truc qui m'énerve énormément, c'est quand je vois des zones de bivouac ou des zones de camping qui sont pas propres, où les gens ont laissé traîner leurs déchets, où les gens ont laissé traîner des choses. Ça, pour moi, c'est juste inadmissible, ne fût-ce que par rapport au respect des autres qui vont venir après, mais surtout aussi par rapport à la nature et par rapport à la nature qui t'accueille, entre guillemets, pour placer ta tente et pour passer un moment incroyable. Et le fait de laisser traîner tes affaires, enfin, ou des déchets ou quoi que ce soit derrière, moi, c'est juste inadmissible. Donc je pense que vraiment, quelqu'un qui veut faire un camping clean, c'est quelqu'un en fait, où on voit pas son passage au final.
Effectivement.
Donc voilà, je pense que ça c'est déjà un bon début pour partir camper un peu plus clean. Et puis je dirais aussi, on en parlait un peu, tout ce qui est gamelle, etc. Prendre des choses, des contenants, tout ce qui est réutilisable, éviter d'aller acheter ces assiettes en carton, des couverts en plastique, ça fait des déchets. On sait tous que quand on est en camping, ce qui nous encombre et ce qui nous embête, j'allais dire nous emmerde, mais bon, ça se dit pas trop, c'est tout ce qui est déchets, parce que bon, t'as pas envie de les porter après dans ton sac à dos. Donc autant prendre des choses qui sont compactes, réutilisables, que tu peux laver, et qui génère un minimum de déchets, quoi.
Bien raison. c'est tout ce que j'avais envie de dire, en fait.
Ah, ok, voilà. Moi aussi, du coup, ça tombe bien.
Donc, voilà, j'ai aucun doute sur le fait que tu gères tes déchets quand tu campes ou quand tu voyages. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu fais attention pour limiter ton empreinte? Le déplacement, par exemple?
Ouais, tout à fait. Donc, c'est un bon point aussi. J'essaye, depuis le confinement... avant le confinement, j'avais l'habitude de voyager un peu partout. C'est vrai que mon compte, parce qu'on a parlé du début du compte, mais on n'a pas parlé du moment où il a pris, parce qu'au début, je partageais mes photos de voyage, mais le compte n'était pas plus gros que ça. Là où il a vraiment décollé, c'est au moment où je suis parti en échange universitaire à Taïwan. Et j'ai vécu du coup pendant 6 mois là-bas. Et en fait, j'ai commencé à partager ma vie en tant qu'étudiant en voyage en Asie du Sud-Est. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. J'ai fait le Vietnam, l'Indonésie, Hong Kong, la Malaisie. Enfin, j'ai énormément voyagé là-bas. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que les gens ont commencé à me suivre parce que je partageais des bons plans, etc. J'étais un peu dans un créneau voyage exotique, etc. Et puis, quand je suis rentré, il y a eu le confinement. Et j'ai dû un peu me réinventer parce que au final, on pouvait plus voyager aussi loin, on pouvait plus faire rêver les gens avec des palmiers et tout ça. Donc du coup, j'ai dû un peu me réinventer et je me suis dit bon, en Belgique, on a très clairement des très chouettes spots, des très chouettes choses à voir. Je suis quelqu'un qui est assez patriotique, donc j'aime beaucoup mon pays. Je suis assez fier de dire que je suis belge et je suis assez fier de représenter mon pays à l'étranger et de dire ah ben tiens, nous en Belgique on a ça. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas utiliser ce côté un peu patriotique et cette fierté de ton pays pour justement montrer tout ce que ton pays a de beau à voir. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire en fait des petites escapades en Belgique, que ce soit des escapades d'un jour, d'un week-end, ou ne fût-ce qu'une demi-journée, pour voilà, inspirer les gens à se dire écoutez, on est coincé chez nous, c'est le cas pour tout le monde, mais ça veut pas dire qu'on peut plus partir en petites escapades, en petites excursions, etc. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai commencé à voyager en Belgique. Ce qui m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à ma consommation du voyage en tant que tel. Et aujourd'hui, c'est sûr que quand je voyage, même en Europe, là je reviens, la semaine passée j'étais à Berlin, j'y suis allé en train. Parce que je me dis, on a la chance en Europe d'avoir plein de choix de destination à portée de main, entre guillemets. On n'est pas obligé de prendre l'avion tout le temps, on n'habite pas sur une île où rien n'est accessible hormis par avion. Et donc du coup, je teste un peu les moyens de transport alternatifs. J'ai une passion pour les trains, j'adore les trains. Et mon grand rêve, c'est vraiment de faire un train de nuit. Donc j'attends vraiment avec impatience que le réseau de trains de nuit en Europe se développe. Et mon grand rêve serait de faire déjà la première ligne qui existe jusqu'à Vienne en Autriche en wagon-lit. Mais donc voilà, tout ça pour dire, pardon, je m'évade un petit peu, mais tout ça pour dire que aujourd'hui il existe des alternatives. C'est pas spécialement plus cher, c'est un petit peu plus long, mais quand tu comptes vraiment du porte à porte, j'avais fait le calcul par rapport à Berlin, le fait d'aller jusqu'à l'aéroport, oui, check-in tes bagages, arriver à Berlin, prendre encore un train pour arriver jusqu'au centre, etc. L'un dans l'autre, je comptais plus ou moins 5 heures en avion et c'était 6 heures en train. Donc voilà, la différence n'était pas énorme et je suis très content d'avoir voyagé en train jusqu'à Berlin. Et je pense que ça va m'inspirer pour d'autres destinations en Europe en tout cas.
Et ça en inspirera plus d'un.
Oui, j'espère.
On l'espère.
J'espère.
Et du coup, dans cette idée de voyager plus vert, comment est-ce que tu t'équipes? Est-ce que tu privilégies des produits éco-design ou de seconde main? Ou même, est-ce que tu loues ton matériel comme on le propose maintenant chez Decathlon?
Eh bien, avant de venir ici et avant de voir un peu la communication que Decathlon a fait à ce sujet, j'étais pas au courant encore que Decathlon proposait ce service de location de matériel. Mais je trouve ça une excellente idée parce que effectivement, souvent, on a l'idée soudaine de faire un voyage pour lequel tu as besoin d'un matériel vraiment très spécifique, quelque chose que tu n'as pas spécialement dans ta cave, ni chez tes parents, ni chez toi à la maison. Et voilà, l'acheter parfois peut représenter un budget assez élevé. Et en plus de ça, comme on disait, c'est un matos que tu vas utiliser peut-être une fois, deux fois sur l'année et qui pour le reste du temps va rester à dormir dans ta cave ou dans ton grenier. Et donc voilà, je pense que ça peut être une super chouette alternative entre guillemets de louer ton matériel pour faire ton expédition. Déjà, ça permet ne fût-ce que de tester le matériel, voir comment tu te sens par rapport au matériel. Et puis, si vraiment t'as un coup de cœur pour le matériel, ben potentiellement, ouais, voilà, tu peux l'acheter parce que tu te dis que tu vas le réutiliser. Mais effectivement, si tu sais que tu vas l'utiliser qu'une fois ou deux fois l'an, ben pourquoi pas juste le louer et puis que ce matériel puisse se resservir à d'autres dans leur voyage. Donc effectivement, la location matérielle, why not ? C'est une très bonne alternative, je pense. Mais comme je disais, moi je suis quelqu'un d'assez minimaliste, donc je me satisfais de peu, mais j'aime investir quand même dans du matos de qualité, donc ça ne me dérange pas mettre un petit peu plus de budget, mais pour avoir quand même un produit dont je connais la provenance et dont je sais les caractéristiques en termes de qualité, quoi. Que je me dis pas, je vais acheter ce sac à dos, il va me servir deux étés et puis il faudra que j'en achète un nouveau. Donc voilà, je préfère peut-être mettre 50 euros en plus, mais de savoir, tiens, il a été fabriqué en Europe, ou bien, tiens, il a été fait sur base de matériaux recyclés, il est fait pour durer, il est résistant, etc. Donc je pense qu'effectivement, notre génération, on a un peu la génération où il n'y a pas que le prix qui compte, il n'y a pas que le design ou la couleur ou la tendance ou la fashion qui compte. Non, il y a un peu cet aspect global et c'est un peu... Il faut voir le produit de différentes facettes au final.
Oui, voir le produit de A à Z. Exactement. Comme tu dis, parfois mettre peut-être un petit peu plus pour avoir un produit qui est durable et donc tu connais la provenance et le process de fabrication.
C'est ça.
Effectivement. Juste avant de clôturer, une petite dernière question. Mm-hmm. Est-ce que suite à une mésaventure ou une anecdote, tu as le conseil ultime pour nos campeurs ou futurs campeurs ?
Alors, oui, j'ai une petite anecdote. Je sais pas, c'est du camping aussi. On était parti en van trip au Portugal, donc au sud du Portugal, en Algarve. Et c'est un lieu qui est très très connu, enfin qui commence de plus en plus à être connu pour le road trip, etc. Et ça devient très compliqué de trouver des spots pour se poser la nuit parce que ils sont soit tous remplis par d'autres vannes ou soit tu te fais embêter pendant la nuit. Et c'est justement ça qui nous est arrivé. On s'était posé un soir dans un très très beau spot, on avait repéré un truc sympa entre les dunes, etc. Mais je pense que c'était pas tout à fait légal de se mettre là. Et donc tout se passe bien, on fait notre petite story le soir, il fait beau, sunset, petite lumière, apéro et tout. Et en fait, on va dormir et en pleine nuit, on se fait réveiller par la gendarmerie portugaise, ce qui n'est pas super, super agréable, qui plus est avec une amende en prime. Ce que je pourrais recommander comme petit conseil à tous nos amis campeurs, que ce soit pour faire du camping slash sauvage ou bien alors y aller juste avec un van ou se poser avec, avec un van. Checkez quand même vos spots un peu à l'avance. Il existe des applications. Moi, j'utilisais Park4Night qui te permettent quand même de voir un peu les spots autorisés et les spots qui sont pas autorisés. Ou alors vraiment le faire discretos et pas comme nous. On avait un peu craqué au Portugal.
On va plutôt miser sur le renseignement, sur l'application,
ça,
pour rester dans la légalité.
Tout à fait.
Voilà. petit aparté, si les parcs le font, c'est aussi dans une idée de préservation, etc.
Bien sûr, bien sûr.
Après, on a beau être la personne la plus respectueuse du monde, il faut malheureusement se plier aux lois, aux exigences.
C'est sûr, voilà. C'est pas parce que toi, tu y vas et que tu ne laisseras aucune trace derrière que, évidemment, tout le monde va le faire. Donc, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, il faut une règle pour tout le monde. Mais c'est vrai que parfois, c'est super frustrant parce que tu vois vraiment le spot magnifique, mais tu peux pas y aller, quoi.
J'imagine.
Mais bon, voilà.
Justin, un immense merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Je vais te laisser retourner aux activités de ce soir et au reste du séjour.
Oui, on a hâte.
Effectivement. Super soirée.
Ouais, la nuit va être courte, je pense.
On s'y prépare. Demain matin, 8h debout. Hein.
Ouais, on a une marche demain matin. En plus, sage. Hein. Super.
C'est bon pour la santé, on est là pour ça.
Ouais, tout à fait.
Merci aussi à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Ça parle sport.
À bientôt.